IDFM 98 de la bande et Bonne FM, IDFM98.fr sur toute la planète Terre. Ce soir, je vous propose de vous remettre debout, si jamais vous n'y étiez plus, avec Marie-Pierre Dylan Seger, qui vient d'écrire un livre chez Mama Édition, Debout, la force de s'incarner, avec une préface de Fabrice Midal. Franco-américaine, Marie-Pierre Dylan Seger est une spécialiste des arts stratégiques chinois, que ce soit le Yi Qing, l'art de la guerre, les synchronicités, l'analyse spatiale, le décodage temporel, qu'elle pratique depuis 25 ans comme un acupuncteur lit un pou. Elle décode le temps et décrypte l'espace, la levée des secrets, le décodage des loyautés invisibles et le timing dans le traitement de l'infertilité font partie de ses spécialités. Ainsi, elle établit des ponts solides et utilisables au quotidien entre la pensée énergétique et pragmatique chinoise et la pensée occidentale, efficace et raisonnée, mais qui aujourd'hui rencontre ses limites. Son objectif est l'autonomie individuelle, la posture efficiente et la pertinence décisionnelle. Elle valorise le mouvement, la politique des petits pas, celle des actes quotidiens qui, répétés, finissent par bouger les lignes et déplacer les montagnes. Elle a publié en 2016 « Chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, trouver sa place » chez Interédition. Elle collabore aux revues Native, Féminin Bio, Chemin. Et vous avez fait un autre livre juste avant Marie-Pierre Dylan Seger, oui. qui s'appelle
Oser s'accomplir.
Oser s'accomplir, c'était chez qui ?
C'était chez Mama Édition.
Chez Mama Édition. On va peut-être déjà parler de Fabrice Midal qui fait votre introduction et qui dit de vous que vous êtes inspiré, que l'inspiration est un phénomène profond mais souvent mal compris. Les anciens qui en savaient long à ce sujet pensaient l'inspiration comme un don que les dieux accordent aux êtres humains pour leur permettre de proclamer une parole qui ne soit pas produite par leur subjectivité, leur goût personnel, leur réflexion intime, mais une parole à même de dire une vérité qui les dépasse et qu'il est temps pour tous les hommes et toutes les femmes d'écouter. Il dit de vous que vous êtes d'abord à l'écoute, que vous ne savez pas d'avance. Il croit aussi décisif le souci que vous avez de revenir sur l'incarnation. Marie-Pierre Dylan Seger, bonjour.
Bonjour.
Au début de votre livre, vous dites « Nous sommes depuis le début de la pandémie assis dans un avion en turbulence constante, avec une ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas, condamnés à regarder en boucle le film des crashs sanitaires en attendant un atterrissage différé sur une piste que personne ne connaît. Cela suffit, arrêtons. » La suite ne dépend pas uniquement de mesures gouvernementales et politiques, sans cesse modifiées ou encore à venir. Elle ne peut s'écrire que si chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, accepte de se redresser et d'assumer à la fois la vulnérabilité et la grandeur de sa condition humaine. Le moment est arrivé de nous recentrer sur des choix vitaux et individuels concernant la qualité de notre vie, nos pratiques de santé, les lieux qui nous font du bien et les métiers qui nous conviennent vraiment. Qui d'autre que nous sait ce qui nous maintient en vie, nous met en joie et nous permet d'avancer ? C'est à nous de sortir du cauchemar chronique qui caractérise la société actuelle. L'urgence est de se mettre debout maintenant. Vous viviez à Boston.
Je vis à Boston, en
vous
fait.
Vous vivez en janvier 2020. Le lundi 20 janvier, vous étiez revenu de Boston. Vous aviez abandonné vos chats, vous aviez abandonné vos enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe le lundi 20 janvier ?
Bien, j'attrape ce que tout le monde croit être simplement une grippe. C'est-à-dire que je tombe vraiment malade. J'avais 15 jours avant côtoyé la communauté chinoise à New York, hein, qui se préparait aux festivités du Nouvel An. Et en fait, on ne parlait pas encore, hein, de ce qui allait avoir ce, de ce qui allait, de la Covid. J'arrive presque même plus à dire ce nom, tellement on l'entend. Et donc, je revenais à Paris comme tous les ans depuis 20 ans pour faire ce décodage énergétique des années, hein, c'est une de mes spécialités. Et pour la première fois, moi qui assure toujours, hein, moi qui tiens mes promesses, moi qui suis fiable, j'ai dû annuler mes conférences. Et j'ai, on pourrait dire que j'ai, maintenant je peux le dire sans être opprimée, mais j'ai failli partir. pour de bon.
Oui, oui, là, vous dites que vous vous êtes sentie partir. Je me sens partir pour la première fois. Je sens la proximité d'un ailleurs, le passage est flou, opaque, avec le bruit devenu incessant d'une narguilée dans mes poumons. Donc, finalement, c'était un Covid que vous aviez.
C'est ce que... C'est, oui, c'est, oui, mais on a mis du temps à le savoir. Quand on dire que, et donc, j'ai porté, ayant été vraiment malade et ayant dû annuler tous mes engagements bien avant que le confinement ait lieu, j'ai d'abord porté... D'abord, je m'en suis sortie. Hein. J'ai aussi porté comme une croix, comme un stigmate, le fait de ne pas être debout, de ne pas assurer, parce qu'on me demandait quand ma grippette allait se finir.
Ouais. Alors, vous vous apprêtiez à livrer un message fort dans vos conférences annuelles. 2020 est au service d'un changement global et collectif, c'est le message. L'année favorise les athlètes, quel que soit le domaine, ceux et celles qui savent nager. Pour les autres, il faudra savoir flotter ou laisser couler. Nager à contre-courant sera impossible. C'était une nouvelle année qui se présentait, l'année du rat...
L'année du rat... Métal, ça c'était 2020. Hein, donc mes conférences sont très suivies puisque ça fait 20 ans qu'elles, c'était 21e année cette année qu'elles ont lieu, et en fait je n'ai pas pu le porter, ce message, autrement que par mon corps. Hein, je suis presque émue encore en parlant, hein, maintenant un an après. J'ai un défaut, c'est d'être souvent en avance. En avance, ce qui est un trait de caractère, mais qui est aussi dans ce cas-là, qui m'a confrontée à l'impuissance de pouvoir être prise au sérieux sur l'urgence de nous reprendre en main en tant qu'individu dans une société dont nous savions bien tous qu'elle ne pouvait plus continuer comme elle continuait. Et donc, dans la lecture chinoise des choses, où le temps est cyclique, hein, les années reviennent, enfin bon, le but n'est pas trop d'en parler là maintenant, il y a la possibilité non pas de prédire ce qui va arriver, mais de se préparer aux turbulences quand on sait qu'elles peuvent se présenter.
Donc c'était l'année des athlètes.
C'était une année qui donnait la main à ceux qui arriveraient à garder une mise en perspective, à ne pas perdre le nord, et qui ne se ferait pas avoir par une pensée trop courte, ou qui continuerait à ne pas se rendre compte qu'on est dans un moment historique, qu'il y a un changement d'air qui s'annonce, et qu'il vaut mieux l'accompagner plutôt que de résister et de faire comme une autruche la tête dans le sable.
Mmh. 2021, on est dans quelle année là ?
Alors 2021, on est maintenant dans une année qui, dans ses cycles de 60 ans, est beaucoup plus stable. Donc on pourrait dire que c'est une année, c'est pas du tout la suite des turbulences de l'an dernier, mais on pourrait dire que c'est une année constructive. Ce qu'il faut entendre, c'est que une année constructive impose des actes constructifs. Donc l'année, on pourrait dire, est beaucoup plus propice à un rebond, mais à la condition que nous acceptions de nous y mettre, de ne pas attendre le retour à ce qui a précédé la pandémie. Dans cette lecture chinoise, on est à un moment donné de rebond qui nécessite notre attention, notre effort, de manière à réinventer la suite. Ce n'est pas une année de reconstruction, c'est une année pour construire un autre modèle économique. On va dire que je suis un petit peu utopiste, mais de toute façon, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le modèle précédent rentre dans le mur. Un autre modèle social, comment fonctionnons-nous ensemble, le moment est venu de réintroduire ne serait-ce que de la bienveillance entre les personnes, dans les rapports professionnels, c'est comme si ce chi, cette énergie avait disparu. Hein, donc là, il y a à la fois un énorme désarroi, une attente un peu passive du retour de quelque chose qui ne va pas revenir, mais aussi un appel d'air pour oser, chacun d'entre nous, faire un petit peu autrement, tous les jours un peu autrement, de manière à nous rapprocher de ce que nous savons qui nous nourrit. On va dire, c'est pas possible, ça changera pas, la vie est difficile, on est condamné, la condition d'humain, etc. Ça, ce sont des discours qui ont fonctionné depuis au moins un siècle. mais qui, au bout du compte, enferme l'individu dans une posture de non-responsabilité. Or, une société, elle est l'agrégat d'initiatives individuelles. Elle n'est pas, si elle est vivante, la répétition de clones ou le fait ou des cases dans lesquelles nous avons forcément à être. Ça vous surprend ce que je suis en train de dire?
Non, pas du tout. 2022, ça sera quoi?
2022, je souris en le disant, 2022, c'est le début d'une séquence de 3 ans qui introduit l'élément chinois du bois, qui n'est qu'une métaphore, mais la métaphore pour une énergie de croissance. Donc, aujourd'hui, c'est pas de croissance qu'il s'agit, c'est de stabilisation et de planter des racines. Donc, par exemple, si parmi les personnes que je peux suivre dans mon travail d'accompagnement, ça fait un petit bout de temps que toutes les activités qui ont à voir avec la création, qu'elle soit artistique, qu'elle soit culturelle, que tout ce qui a à voir avec un vrai travail d'accouchement de nouvelles formes dans le design, par exemple, ça fait quelques années qu'il n'y a pas de budget pour ça, que c'est en stand-by, qu'on est passé dans un mode de le copier-coller ou la copie, où je répète ce qui a déjà été dit et je ne cherche surtout pas trop à sortir des cases parce que ça ne va pas le faire et parce qu'on ne prend pas de risque. On ne prend pas, mais aussi les financements, c'est par là qu'ils vont, d'une certaine manière.
Puis là, donc tout là, est coincé, là, je veux dire, tout ce qui est culturel est fermé.
Absolument. Ouais. Donc là, on arrive à la fin d'une période où l'élément du bois, justement, n'était pas présent ces dernières années, au profit, par contre, d'énergie, de rationalisation, de systématisation, etc. Donc, l'an prochain se réouvre une période que je pourrais comparer aux années qui ont donné naissance à l'art nouveau, à l'art déco, des périodes qui ont été extrêmement riches culturellement. Là, on est dans l'étiage, dans la fin de quelque chose. Mais si on regarde, vous et moi, ce qui se passe, le fait d'aller marcher dans les rues de Paris où il y a ces musiciens courageux qui continuent à jouer quand même ou qui jouent à l'extérieur ou qui dansent dans les gares, etc., ce que je suis de très près, on voit bien qu'il y a des bulles qui commencent à monter à la surface et que ces personnes courageuses, et toutes n'arrivent pas à survivre et à se redresser, mais participent déjà d'un terreau nouveau qui va passer dans les interstices. Hein. Et les gens ne sont pas fous, les gens suivent. Les personnes, quand il y a ces danses, par exemple, dans les gares, les gens partent en courant, on s'arrête, on sourit, on revit. Chapeau!
Alors, quand il vous arrive ce problème, là, vous vous sentez partir pour la première fois, vous sentez la proximité d'un ailleurs, puis semble venir de nulle part la conscience d'une urgence, une conscience impalpable, non localisable, qui cherche à négocier et qui vous dit écrire. J'ai oublié que la première phrase que vous donnez dans votre livre, c'est « Nous sommes là, que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou non, ce sont les guides ». Donc ça, vous entendez des guides, vous dites qu'ils sont 3. Mmh. Ils vous disent écrire, c'est ce qui finalement vous a sauvé aussi.
J'étais vraiment pas bien. Hein, et c'est après que j'ai compris qu'il y en avait 3. Parce qu'après, j'ai écrit une lettre, hein, j'explique dans le livre. Mais j'ai entendu quelque chose qui, pour moi, mon cerveau gauche, ce qu'il en restait, ça n'avait pas de sens. Et je venais de terminer mon ouvrage précédent. Mon activité principale, ce sont les consultations. C'est ça que c'est ma passion, ou les conférences. Et donc, pour moi, ce n'était absolument pas le moment de me remettre à écrire. Et non, mais sauf que c'était impérieux. Et ce que j'ai fait, enfin, je vais être émue, hein, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé. J'ai dit « Ok ». Ok, ça n'a pas de sens. Et la question, c'est pas du sens. La question, c'est de vivre les minutes suivantes pour qu'il y en ait encore une, de manière à ce que je puisse passer ce cap. Parce que moi, bon, je vois les épreuves comme des seuils, comme des caps. Hein. Donc là, ça m'a été utile quand même, cette lecture du monde. Mais pour moi, c'était ok. Et j'ai dit, je me suis dit, oui, tu en sors, tu vas écrire. Ce qui a été étonnant, c'est que ça faisait des jours et des jours que je n'arrivais pas à dormir, j'ai perdu 8 kilos, enfin j'étais vraiment dans un état de loc, et il restait plus beaucoup de présence. Et après cette acceptation, il paraît que je me suis endormie. J'ai enfin dormi. Et la fièvre est tombée dans les jours qui ont suivi, quoi. Et quand j'ai été alors après je me suis retapée, mais j'avais tellement mal au poumon que je ne pouvais plus. J'ai essayé de reprendre les consultations, je ne pouvais plus tenir l'intensité de la consultation parce que je m'en mettais à tousser. Donc là, pour moi, ça a été le clin d'œil. Bon ben, tu peux pas dire individuellement, mais en fait, tu peux écrire pour toucher plus de monde. Donc j'ai calé. J'ai annulé, les gens n'en sont pas revenus, ils avaient déjà attendu, j'étais malade, mais j'ai annulé les consultations.
À quel moment vous avez pu repartir à Boston ?
Je suis repartie à Boston après la fin du premier confinement. Ce livre a commencé à être écrit ici.
Donc vers juin ?
Vers juin. Et j'ai passé l'été à le finir.
Vous avez l'habitude d'avoir des masques quand vous prenez l'avion, parce que vous dites que vous aviez un masque en venant ?
Non, je n'avais pas l'habitude, mais comme je suis en lien avec la Chine, comme je suis très informée aussi sur toutes les questions géopolitiques, pour moi c'est intéressant, ça me passionne, je savais qu'il était bon, que le virus était pas loin et qu'il fallait avoir un masque, mais j'avais entendu que le masque pouvait nous protéger. Donc j'avais acheté le masque. Mais.
Vous étiez la seule à le porter dans l'avion.
Je ne l'ai pas vraiment mis, pour être clair.
Bon. Alors ensuite, quand vous commencez à vous redresser, là, vous partez dans la rue, vous voyez des personnes âgées qui. Je ne sais pas exactement, mais vous voyez des personnes âgées et vous êtes dans la bienveillance puisque vous entendez cette phrase: être seul n'est rien. Être seule sans force est la vraie difficulté. Moi, je pense à toutes ces personnes qui se sont retrouvées seules, malades chez elles.
Ouais.
Ça devait être l'horreur.
Absolument, absolument. Et ce qui se passait, j'ai eu l'impression de porter ce poids. Parce que aussi dans mon travail, ces dernières années, dans l'intimité des rendez-vous, il y avait l'épanchement d'une souffrance sociale terrible. Dont il me semblait que nous ne parlions pas, hein, puisque il faut être fort, hein. Puis on est occidentaux, quoi, on est puissant, on veut, on peut, moi je vis aux États-Unis, donc en plus c'est les muscles, il faut vraiment assurer toujours. Or, cette souffrance ne se dit pas. Alors moi, ce qui s'est passé dans ces moments où je récupérais, c'est que cette souffrance était encore plus palpable. Donc à un moment donné, j'arrêtais même de croiser les regards des personnes parce que c'était trop lourd. Et ça m'a motivée à écrire davantage, à aller jusqu'au bout de ce qui doit être dit. Et ce qui doit être dit, c'est pas que la vie est difficile, c'est que nous passons par des moments difficiles, sommes-nous suffisamment équipés au niveau individuel pour absorber, pour contourner, et puis aussi pour ne pas toujours penser que nous devons faire face. Il y a des moments, il faut pleurer. Il y a des moments, moi j'ai un exercice dans mon livre précédent, on casse des assiettes, on est en colère, on casse une assiette.
Il y a des moments, il faut râler aussi.
Mais oui,
le masque, il est là pour nous faire taire.
C'est vous qui l'avez dit, hein, oui. J'entends.
Alors, il vous faudra des semaines pour comprendre que la maladie vous a terrassé à un moment où il était trop tard pour avertir, comme des milliers de thérapeutes, soignants, activiste, vous étiez épuisé par des années d'accompagnement passées à nourrir des changements de posture qui tardaient. Et vous parlez de l'armée de l'ombre.
Ben, l'armée de l'ombre, pour moi, ce sont tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, dans leur travail quotidien, accompagnent l'autre et qu'on ne voit pas, à qui on ne dit pas merci, à qui on ne dit pas bonjour, et qui font un boulot colossal dans l'ombre pour remettre les gens debout. Séance de thérapie après séance de thérapie, séance d'ostéopathie ou réflexologie, ou etc. Et pour moi, il y a un manque de reconnaissance, et d'une, mais il y a aussi le fait que qui parle de cette souffrance-là ? Et puis il y a aussi la souffrance de ceux qui accompagnent et qui, parce que la société est bâtie comme elle est ces dernières années ou ces dernières décades, remettent des gens debout. Et puis la personne repart à son boulot le lundi et se retrouve de nouveau avec un mal de dos le mardi. Le mal de dos, c'est pas simplement une histoire de chaise qui est pas bonne. C'est une histoire de ce qu'on avale, que ce soit à la télévision, que ce soit dans des discours qui essayent de nous enfumer. Et donc, pour moi, je pense que le moment est venu que les courageux, les compétents, les connectés, les bienveillants prennent la parole au nom de la souffrance collective qui existe, dont le Covid est une forme, ça met un petit peu les choses au jour, hein, mais c'est, et prennent la parole au nom de la vitalité individuelle. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir passé des années à réparer. Moi, ce que je souhaite, c'est d'accompagner avant que ça casse. On peut dire que je suis utopiste. Hein. Mais une personne qui a le courage de s'aligner avec une voix profonde qui lui dit « Tu n'es vivre à la défense, par exemple, n'est pas bien pour toi et que tu as besoin d'aller au bord de la mer. » Et elle courage de changer, de faire ce type de choix aussi difficile qu'il puisse paraître, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais sont des choix que j'appelle vertueux. À terme, la personne se rapproche de sa vitalité, se reconnecte à elle-même et aura moins mal au dos. C'est peut-être un raccourci ce que je suis en train de dire, mais pas vraiment.
Oui, de toute façon, la crise a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté les grandes villes. Vous dites que toute crise est une phase, une épreuve au sens chevaleresque du terme. La pandémie n'est ni un coup du sort, ni la fin du monde. L'impasse est spirituelle et aucun héros ne nous sortira du piège. Nous avons la suite entre les mains. La solution sera collective, on ne sera pas. Moi, je pense à toutes ces personnes âgées là qui sont en train d'aller faire leurs courses avec leur cabas et qui plient avec le masque. Ils ont déjà du mal à respirer. Ou je pense à ces enfants dans les écoles avec le masque. Ouais. Voilà, je pense à tous ces gens qui souffrent en silence puisqu'ils ne peuvent rien dire.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse.
Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Marie-Pierre Dylan-Séger. Debout, la force de s'incarner aux éditions Mama Édition. Vous aviez la curieuse impression que les mots dont vous aviez besoin n'existait pas. Et donc, il y avait ce pacte de guérison, écrire. C'était un pacte que vous avez fait. Donc, ce livre, finalement, vous l'avez écrit. Il y a une lettre des guides écrite en mars 2020. Hmm. Vous voulez la lire ?
Vous êtes sérieuse ?
Oui. Oui, je suis très sérieuse.
Absolument. Alors, je me suis rendu compte après coup que je l'avais écrit en anglais, hein, mais donc je vous la lis en français. Hein. Donc ça, c'est un conseil que je propose. Parfois, je vais proposer à certaines personnes d'interpeller un aïeul, par exemple, qui n'est plus là, mais de lui écrire. Et c'est toujours intéressant de voir les informations qui vont sortir. Donc, mars 2020. À mes guides, quelle voie prendre ? Ne bouge pas, ne t'agite pas et ne conclue rien. Commence à écrire. Nous allons te guider. Engouffre-toi dans l'écriture. Sauve ton âme et diffuse les informations que nous allons te livrer. Je l'ai lu. Commence maintenant. Le titre du livre devrait être un seul mot. Vitalité, voix avec un X, voix avec un E, voix avec un S. Vas-y. Le virus est réel. Il est possible que tu l'aies eu, mais tu es OK. Bien. Pas de souci. Le pire était en janvier, c'est derrière toi. Creuse les lignes. Mets des mots dedans, avance vers la lumière et partage-la. Cela peut être un livre en ligne, pas besoin de l'imprimer. Continue à manger, à t'hydrater, dors, ne t'agite pas. Aie confiance. Nous sommes avec toi et ta voix, qui est notre voix, sera entendue. Nous avons besoin de toi et tu as besoin de nous. S'il te plaît, ne doute pas, ne retarde pas, démarre. Tout sera fluide dans 5 semaines. D'ici là, ceux en qui nous avons confiance vont survivre. Ceux qui doutent pourraient choisir de partir. Ils seront heureux. Pour le moment, commence à écrire. Nous sommes 3 et nous sommes avec toi.
Oui, alors il y a cette phrase qu'on peut... D'ici là, ceux en qui nous avons confiance vont survivre. Ceux qui doutent pourraient choisir de partir. Ils seront heureux. Il y a beaucoup de gens qui vont partir.
Bien sûr, il y a beaucoup qui sont partis.
Pas tant que ça, finalement. Quand on réfléchit bien autour de nous, c'est pas l'hécatombe, quoi qu'on puisse nous dire.
Déjà, ceux qui vont rester, ceux en qui nous ont confiance, je pense qu'il s'agit de cette armée de l'ombre. De ceux qui ont des choses à dire, de ceux qui ont des chansons à écrire, de ceux qui ont des pièces à monter, de ceux qui ont des messages à transmettre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter.
Ceux qui doutent pourraient choisir de partir. Ceux qui doutent ou ceux qui ne doutent pas. Parce que ceux qui ne doutent pas de ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire pendant cette pandémie, c'est ceux qui ne se posent pas de questions.
C'est exactement le sens de la formule.
Voilà. On va avancer dans votre livre. Vous avez une réponse du Viking aussi à la page 24. Oui.
Parce que j'ai tenté, en fait, une fois que j'ai vraiment retrouvé mes esprits, j'ai tenté aussi de pas tout de suite appliquer en faisant un tirage de Yiking pour retarder encore les choses. Puis finalement, tout me ramenait à l'injonction d'écrire.
Sauf que le Yiking que vous n'aviez pas ouvert depuis...
un bout de temps.
Vous n'aviez ouvert qu'une fois depuis votre maladie, la réponse a été claire, se taire.
Non, donc se taire, donc je ne parle plus, j'écris.
Mais on est tous dans une société où on doit se taire.
Ok. Se taire de la manière dont je... par rapport à la manière dont je parlais de manière publique précédemment, là c'est se taire le temps de produire un texte qui puisse être utile, mais aussi, je pense que nous allons aller de plus en plus, et ça démarre cette année, vers un mode de diffusion d'informations en groupe ou en réseau. Hein. Et parfois, moi, je compare la période actuelle à cette période du Moyen-Âge où l'information était
le
territoire, voilà, le colporteur, ou alors de monastère à monastère, où on avait l'impression que c'était l'obscurité totale. Et puis, il y avait la petite plante dans un monastère ou dans une chaumière, et c'est là que les informations passaient. Je pense que l'on sort, en tout cas, de la grande vague. L'an dernier, hein, la métaphore chinoise, c'est celle d'une vague qui revient, qui est là pour, pas pour détruire, qui est là pour nettoyer et aussi faire bouger les lignes de ce qui est fragilisé. Hein. Donc là, on part vers une parole, quand la parole renaît, c'est une parole plus choisie, plus cristalline, mais qui ne convient pas à tout le monde. On passe à un mode de qualité.
Vous dites, puisque vous parlez beaucoup de la réincarnation, nous vivons notre vie comme une enquête en voie d'élucidation. Mais comment résister à l'illusion du déjà écrit, du déjà tracé et du fichu d'avance? Si on pense à la réincarnation, c'est sûr qu'on arriverait avec une vie à faire qui serait déjà écrite, déjà tracée et pour la plupart fichue d'avance. Comment y résister?
Mais pour moi, l'idée de... D'abord, je ne cherche pas à convaincre, hein, mais pour moi, l'idée, cette lecture du monde qui pose le principe de plusieurs vies, m'intéresse parce que cela nous sort de l'idée d'une seule vie où on doit tout faire ou tout réussir dans une seule vie, qui nous met une sacrée pression. Hein. Je pense que chaque vie, qu'il y en ait qu'une ou qu'il y en ait plusieurs, chaque vie est une occasion de déploiement. La question, c'est d'arriver à déployer ce que nous sommes et pas ce que l'on nous dit que nous sommes. Et bon, vous souriez, mais oui, je crois que vous voyez ce que... Je veux dire, vous faites un lien, là.
Oui, parce que vous dites... accepter d'être ce que nous ne sommes pas et se faire voler son âme.
Mais ça, c'est ce que beaucoup de gens font. On leur dit de faire... Enfin, je simplifie, mais on est sur tel chemin pour telle étude, pour tel diplôme, pour telle carrière. La personne en est capable, mais ce n'est pas ce qu'elle a dans le ventre. Moi, je me souviendrai toujours, au début de ma pratique, hein, d'une personne qui était médecin du monde ou médecin sans frontières, qui cartonnait dans son travail, mais sa passion, c'était de faire des violons, faire le travail du bois. Des violons et c'était impensable de laisser une carrière, de etc. En fait, il a fait le pas. Alors ça a été pas simple parce que la famille a pas compris, parce que l'épouse etc. Mais cet homme là je sais qu'il a gagné en longévité.
C'est sûr.
Enfin, c'est ce que dirait l'énergétique chinoise, hein. Et donc ce qui est important, c'est d'amorcer. D'abord, l'inconfort, quand on n'est pas en phase, en cohérence avec soi, la personne le sait. Et si elle ne le sait pas, le corps va le signaler. Un mal quelque part, ou les événements de la vie nous mettent face à l'incongruité des choix dans lesquels nous sommes. Mais ensuite, c'est de prêter attention au moment de la journée, aux activités, aux personnes qui touchent en nous la fibre de vie, et de nous en rapprocher, et de tenter de systématiser ça. Et en même temps, de faire attention aux activités, aux personnes, aux moments de la journée, aux lieux qui nous pompent. Et de considérer, enfin, c'est quelque chose que je dis parfois, il n'y a pas de petits gains, il n'y a pas de petites pertes. Donc tout moment de joie qui est gagné dans une journée est important. Moi, je me lève tôt parce que les oiseaux, le moment où je les entends, ça me nourrit pour toute la journée.
Vivre et se mettre au service d'une tâche, page 36, il est vraisemblable que nous en choisissons les contours, mais sa ligne directrice n'est ni le fruit d'un choix individuel, ni décidé au crépuscule de notre vie d'avant. Elle réside dans la nuit des temps, imperceptible à la raison, non négociable, imperméable au supplice de l'âme. Comment savoir quelle est notre tâche et se mettre au service? Parce que c'est ça que là vous venez de dire. Ce monsieur s'est mis au service de sa tâche.
Absolument. Il y a deux éléments de réponse, hein. Il arrive que ce sont les événements, les accidents de la vie qui nous mettent face à la responsabilité de déployer ce que nous sommes. C'est ce qui m'est arrivé. Alors que j'avais vraisemblablement ce livre à écrire, mais que je partais dans une autre direction. Il y a une autre approche qui est au quotidien, j'en parlais juste avant, d'attacher de l'intérêt à notre niveau de vitalité. Et puis de tenter de maximiser, encore une fois, ce qui nous met en joie, en ne partant pas dans une lecture défaitiste d'avance qui se cale sur le fait que ce qu'on entend, hein, que la vie c'est dur, que... etc. Je veux dire, c'est pour moi, il y a une jauge où il y a un élément qui est notre niveau de joie, notre mise en joie. On va dire, mais d'être en joie ne remplit pas un compte en banque. D'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin que le compte en banque soit archi rempli? Et en fait, ce que le niveau de joie fait, il alimente les forces de vie. D'alimenter les forces de vie renforce la santé. La santé renforcée nous permet de passer le coup de fil supplémentaire qu'on devrait faire, qui va nous permettre d'avancer d'une case par rapport à une activité que l'on souhaite et qu'on n'a pas encore. Donc c'est un système de liens ténus, de petits pas, vous l'avez nommé tout à l'heure, qui crée des cercles vertueux. Et ce que je cherche à faire aussi, c'est d'accompagner la personne dans la prise de conscience de ce qui est souvent, pour le moment encore, des cercles vicieux.
Pourquoi dites-vous que les tests, les mesures et les évaluations créées par l'école des hommes, la famille et la société sont des distractions de l'incarnation ?
Parce qu'on est dans un mode où cela crée un système du tout le monde pareil, ou du tout le monde sur la même voie. Il y a les voies royales et il y a les voies exclues. Pour moi, quelqu'un qui a X diplômes, alors je n'est pas plus grande ou plus importante que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais va être capable de repérer les traces d'un animal dans les bois. Il n'y a pas de hiérarchie. L'école crée des hiérarchies. En tout cas, à l'heure actuelle, elle crée des exclusions, elle crée un système de valeurs qui a eu sa valeur, qui en a certainement encore. Mais moi, j'ai dans les rendez-vous les souffrances liées par l'exclusion de ces systèmes-là. Et ça peut être quelqu'un qui a fait l'ENA, qui n'a pas eu le nombre de points qui l'aurait permis d'avoir tel poste. C'est quoi ça ? C'est un système de mesure des hommes. C'est un système qui permet de rentrer dans certaines cases. Ce n'est pas un système qui nous permet à une société d'être vivante. Puisque c'est un système pyramidal qui exclut. Il y a ceux qui ont réussi à être en haut.
Qui gouvernent.
Qui gouvernent, mais qui aussi ne sont pas forcément si heureux que ça. Hein. Simplement, on n'en parle pas.
Vous dites qu'il faut honorer un ennemi et remercier l'obstacle. Ça, vous avez trouvé ça dans...
Bon, ça, c'est l'art de la guerre.
L'art de la guerre, c'est un beau livre, ça, tout le monde en parle. Comment il est ?
Alors, ça, pour moi, c'est un livre... D'abord, c'est un livre qui n'est pas à lire du début jusqu'à la fin. On l'ouvre à un certain endroit, on en lit un petit bout, on le mâchouille pendant un certain temps, on repose et on voit. Moi, ce que j'apprécie dans l'art de la guerre, c'est que ce sont des techniques, des pensées qui vise toujours l'économie de force. C'est pas l'art de gagner, c'est l'art de durer le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. En fait, sans les obstacles, sans les accidents que j'ai pu rencontrer, sans des deuils aussi, je ne serais pas la personne que je suis. Donc je les remercie. Et même un ennemi nous apprend quelque chose. Et puis je pense que c'est de l'ordre du respect de l'individu.
Oui, donc l'art de la guerre, il doit y avoir plusieurs traductions.
Alors moi, il y en a une. C'est Flammarion dans la collection Chant. Donc c'est en livre de poche de Sun Tzu. Hein. Tout ce dont je parle qui a à voir avec la feinte, le repli,
oui,
le laisser couler,
c'est des parades.
Hein. Ce sont des parades.
Mais avant d'en arriver aux parades, on va peut-être aborder en troisième partie d'émission les 9 défis d'incarnation. Les 9 défis d'incarnation.
Nous, on va continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on va continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer. Passer nos vies sur une grille. D'accord.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM sur le 98 de l'Amande FM. IDFM 98.fr sur la planète Terre avec Marie, Pierre, Dylan, CG. Debout, la force de s'incarner. Et là, nous allons aborder la troisième partie. Les 9 défis d'incarnation qui sont... Préserver l'âme, on va les dire, on va pas les aborder tous. Hein. Ça veut dire s'incarner.
Préserver l'âme, s'incarner.
Préserver la mémoire, patienter. Préserver son intuition.
Se protéger.
Ça, j'aimerais bien qu'on en parle.
Donc là, je suis très directe hein, dans ce chapitre-là. Et je pose le fait qu'on ne nous apprend pas, on ne nous apprend plus à nous protéger, à nous défendre. Hein. Un animal dans la nature va survivre parce qu'il est connecté à son instinct, il accepte son intuition, il n'est pas simplement en mode de raisonnement. Et donc, ce que moi je constate, c'est que nous vivons encore aujourd'hui dans une société qui nous donne l'illusion du pas de risque. Les assurances sociales, on a des assurances médicales, on a des assurances voitures, on a des assurances machin, etc. Et nous savons tous que quand on a vraiment besoin de l'assurance, c'est jamais forcément simple. Mmh. Elles ne sont pas là. Dans ce monde où il y a une assurance pour tout, l'individu finit par ne plus avoir besoin d'ouvrir les yeux. D'une certaine manière, puisque il y a plus de risques, et puis il y a les vaccins,
il y a les caméras,
il y a les médicaments, on a une solution pour tout. À partir du moment où nous croyons à ce modèle, on se fait enfumer d'une certaine manière, hein, on se fait enfumer, et nous mettons sur un mode d'autopilote, pilotage automatique, avec l'illusion de ce que la rue, le soir, c'est pas forcément dangereux. Je vois de très jeunes femmes qui ont, avec ces talons aiguilles, qui sont peut-être magnifiques pour le galbe de la jambe, mais avec lesquelles il est impossible de courir. Je pose, moi, un constat. Nous n'investissons pas suffisamment dans l'éducation au discernement, l'éducation à la vigilance. Pas pour faire peur, mais simplement pour nous protéger de risques inutiles. Je suis même allée voir sur le site du ministère des Sports le détail de ce qui est enseigné physiquement à nos enfants. Les sports de défense n'y sont pas.
Non.
On est dans les sports collectifs, individuels, mais les techniques de combat, pas pour faire la guerre, pour que la guerre n'ait pas lieu. Ça, c'est tout à fait l'art de la guerre. Hein. Les techniques de défense, de self-defense, ne sont pas enseignées. Donc, on va individuellement avoir le courage d'apprendre ou on est mal, on court des risques.
Dans le chapitre « Préserver l'intuition » qui arrive juste derrière, la crise de la Covid-19, moi je dis du Covid, il n'y a pas de raison qu'elle soit féminine.
D'accord avec vous.
La crise du Covid-19, on dit le cancer, on ne dit pas la cancer, a réveillé nos peurs profondes face à la maladie, à la mort et à la sécurité économique, alimentée par les discours anxiogènes et les chiffres de mortalité répétés en boucle. En même temps, le radar de nos intuitions profondes et de nos ressentis s'est rallumé, activant notre instinct de survie et notre responsabilité de vigilance. C'est une bonne chose. Donc, quelque part, ce Covid, là, finalement, il nous réveille quelque part aussi.
Il nous a d'abord atterrés, surpris, on peut dire, hein, surpris, sidérés, atterrés, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Le virus lui-même ou les discours qui vont avec ? Enfin, moi, je me pose la question. Et si nous réapprenons la vigilance, parfois simplement des gestes d'hygiène, c'est plutôt une bonne chose. D'une certaine manière, nous sommes confrontés à l'essentiel et à l'inessentiel. L'essentiel, c'est de vivre, c'est d'être vivant. Moi, c'est intéressant parce que quand on pouvait tout faire partout, tout le temps, nous n'étions pas contents. Ensuite, les confinements sont arrivés, on ne pouvait plus faire tout, partout, tout le temps, on n'était pas contents non plus. Mais nous avons néanmoins retouché du doigt ce qui est important et ce qui l'est moins, et puis aussi nous avons redécouvert le désir d'aller marcher dans la forêt, le désir de pouvoir voir notre famille. Je dirais qu'on s'est réveillé. Maintenant, il faut se mettre debout.
Sauf ce que dit Voltaire dans le chapitre 9, Préserver le sens de vivre. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit.
J'ai rien à rajouter là-dessus.
Oui, je pense qu'on a tous compris. Après, donc, dans les neuf défis.
Neuf défis d'incarnation.
Il y a des épreuves après, les cinq épreuves regroupées derrière les cinq éléments en médecine chinoise, les épreuves du feu, du qui suis-je, du métal avec l'épée, du pourquoi, de l'eau avec la noyade, quand vais-je m'en sortir? Du bois avec la forêt, où suis-je? Et de la tombe, la terre, comment faire? Est-ce que vous pensez qu'on a déjà fait ces 5 épreuves là, en 2020-2021? Le qui suis-je? Le pourquoi? Quand vais-je m'en sortir? Comment faire et où suis-je? Est-ce qu'on est déjà passé par les 5?
Avons-nous suffisamment souffert?
Ah oui, non, bah... peut-être qu'on aime ça aussi. Hein.
Encore une fois, je ne commande pas.
Moi, je pense qu'on a assez souffert comme ça.
Je pense qu'on est prête, on est prêt à sortir de la tombe. Là, alors l'épreuve de la tombe, c'est bien sûr, c'est une métaphore. Hein, c'est quand on est dans un sentiment d'être enseveli, de ne pas avoir de liberté d'action et d'être complètement dépossédé d'une capacité d'action.
Et pas d'air.
Et pas d'air, bien sûr, puisqu'on va étouffer. Hein. Et là, cette posture est intenable. On en a fait le tour. Et je pense qu'il y a suffisamment de vie et de capacité vibratoire au sein de notre société pour passer maintenant à une étape où nous allons nous redresser.
Après, il y a les 8 parades. Après les 5 épreuves, il y a les 8 parades. Et donc, dans les parades... Vous disiez tout à l'heure qu'on n'apprend pas à se défendre, c'est clair.
Il y a
4 parades qui utilisent le mouvement et les forces dynamiques.
Et
les 4 autres parades qui utilisent l'inertie et la non-résistance. Elles sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Et dans les dynamiques, on a reculé.
Reculé parce que même si ce n'est pas avancé, on fait un mouvement. Donc ça, c'est, il faut être actif. Il y a reculé. Il y a la feinte. La feinte impose un mouvement. On se transforme en quelque chose d'autre ou on se redresser. Donc ça, c'est quand vraiment on fait face à l'adversaire et qu'on va répondre ou on va agir. Et puis l'avancée. L'avancée, alors il faut imaginer de l'escrime, par exemple. Hein, quand on voit deux adversaires, il y a à la fois les feintes yin où on recule et puis il y a aussi celles où on passe en mode d'attaque. En Occident, souvent, je simplifie, mais quand même, la parade par défaut, c'est d'attaquer ou de répondre. Mais ça, ça prend énormément de force. Et souvent, d'attaquer va nous amener à être sur le terrain de l'adversaire et c'est la surenchère. À terme, c'est extrêmement coûteux en force. On prend par exemple l'exemple de l'invasion, enfin des attaques américaines en Irak, etc. Ça a coûté des sommes folles. Qu'avons-nous vraiment accompli? Après, on a surtout beaucoup détruit. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui permet d'être agissant sans que ça se voit beaucoup et sans que l'on s'épuise. Et l'ancrage, ça peut être par exemple, vous savez, quand vous êtes face à un guichet et qu'on vous dit... Mais c'est pas possible, il vous manque encore un papier, etc. L'ancrage, pour donner un exemple très particulier, c'est ne pas bouger. Vous ne bougez pas, et en ne bougeant pas, parce que non, vous ne voulez pas repartir chez vous, chercher l'autre dossier, il arrive que la personne qui a cherché de vous éliminer finisse finalement par trouver une solution. Ou comme quand on reste au téléphone, en ne répondant pas tout de suite, le temps qui passe, tant de vide, il faut le tolérer, tant de silence, fait parfois qu'une solution qui n'était pas envisagée arrive. Donc ça, c'est celle de l'ancrage, par exemple. On agit sans bouger. Il y a laisser glisser, je parlais du canard au début, répéter, la répétition.
Alors, laisser glisser, c'est ne pas répondre.
C'est ne pas répondre et refuser de s'engager sur le terrain de l'insulte ou de la difficulté.
Répéter, c'est répéter ce que vient de dire l'autre.
C'est répéter ce que vient de dire d'autre ou c'est d'insister suffisamment. Répéter
sur sa demande.
Sur sa demande. Mais c'est aussi ce que fait un enfant. Parce qu'un enfant qui apprend à marcher, il va répéter le fait d'apprendre. Il ne va pas conclure qu'il apprendra jamais à marcher parce qu'il est tombé 5 fois de suite. Alors que nous, adultes, un obstacle qu'on a 2 fois, 3 fois, on va conclure... que non, c'est pas pour nous, etc. Donc là, ce sont des situations où il convient de ne pas abandonner et de relancer encore la demande ou la pratique.
Ça, c'est bien de faire l'exercice du non, hein, qui était un exercice intéressant dans votre livre, à savoir dire non, parce que ça pourrait Ça pourrait marcher avec la répétition.
Absolument.
Parce que des fois, les gens ont du mal à nous dire non.
Bien sûr.
Le problème, c'est que si on cherche un non, on a du mal des fois à l'obtenir.
Absolument. Oui, oui, c'est très juste. Hein. Très juste.
Et puis, il y a l'acceptation. Toujours en parade, accepter ce qui arrive.
Accepter la réalité. Accepter, par exemple, que je ne suis pas grande. Accepter qu'il y a telle chose que je ne peux pas faire. Ok, bon, ben, je vais me concentrer sur ce que je peux faire. Et l'acceptation, d'ailleurs même dans le processus de deuil, hein, l'acceptation est une étape importante parce qu'elle est la condition du passage, de l'arrivée de la phase active qui va suivre. Accepter est difficile, hein. Accepter, ce n'est pas un effort de volonté. Une fois qu'une situation est acceptée telle qu'elle est, nous pouvons trouver les solutions telles qu'elles sont.
J'aimerais qu'on revienne sur préserver le sens. À un moment, vous parlez de travailler un grand-père maternel que vous n'avez pas connu, que juste par une photo, il apparaît en costume sombre avec un bras ballant posé sur sa jambe. Il a perdu ce bras dans une guerre où il a choisi d'aller à la place d'un autre. Il a mis sa vie en jeu en échange d'une somme d'argent et a perdu une partie de la mise. Sa jambe. Et si, sans aller aussi loin, une tractation consciente avec des forces que nous ne connaissons pas, vous avez mis entre parenthèses, et pour cause, permettait de mieux apprécier ce que nous aurons un jour à quitter. J'ai du mal à comprendre là.
C'est complexe, hein. Ce que lui a fait, c'est qu'il a joué avec sa vie. Il avait un objectif.
Il jouait avec son corps.
Il jouait avec son corps. En tout cas, le corps a pris un coup. On peut faire le parallèle avec les pactes que nous faisons continuellement, souvent, je vois, en échange de telle satisfaction matérielle, j'accepte de souffrir dans tel boulot. C'est un pacte du même ordre.
C'est quoi cette tractation consciente avec des forces que nous ne connaissons pas ?
Eh bien, c'est avec les forces qui mangent notre vitalité. C'est avec cette part de nous qui est mise en jeu. Lorsque j'accepte... Lui, il l'a fait consciemment, pareil, il a perdu un membre. Mais quand tous les jours, alors que je sais que cela ne me convient pas, je vais néanmoins poursuivre une carrière qui ne me va pas.
Alimentaire, comme on dit si bien.
Alimentaire. Mais donc, alimentaire, il y a un gain. Il va y avoir un gain. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est la perte de vitalité qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix, mais qui, en tout cas dans ma lecture, a un prix. Parce que c'est... Je veux dire, l'argent, le problème avec l'argent, c'est que ça se voit, c'est que ça peut se mettre sur un compte, c'est que ça peut se traduire en numéros, et que ça a l'air d'être quelque chose de tangible. Alors que l'énergie, le paquet d'énergie que nous sommes, et le capital santé avec lequel nous arrivons dans cette vie-ci, ben ça, it's taken for granted. C'est quelque chose qu'on nous l'a donné, on nous l'a donné, donc on le dilapide plus facilement parce qu'on ne se rend pas compte de sa valeur. Donc chaque fois que nous faisons
un pacte,
c'est ça que je parle, hein, un pacte de cet ordre, ce que nous mettons sur la table, c'est une part de nos forces vives. Or pour moi...
Il faut relire Sénèque, la brièveté de la vie.
Exactement.
Voilà, donc j'ai un peu mieux compris.
Mais il y a aussi ce quoi vous faites illusion, c'est qu'il y a en filigrane de mon ouvrage, de mon travail, un lien très accepté avec l'invisible.
Oui, et vous dites aussi, pour rester sur le sujet, je ne sais plus à quel moment du livre, que cette énergie qu'on nous a donnée, on l'appelle l'énergie primordiale, je ne sais plus comment l'appeler.
L'énergie de vie, ou l'énergie vitale.
Voilà, l'énergie qu'on a eue à la naissance, il faudra qu'on rende des comptes à la sortie.
Alors ça, c'est un homme sorcier, enfin un medicine man de la tribu des Wampanoag. Moi, je vis sur la côte est des États-Unis, très proche de ces... de cette tribu qui est celle qui a accueilli les colons anglais et qui l'a ensuite payé très cher, hein, en 1620. Et c'est ce que lui disait dans l'un de ses partages, comme si l'univers avait un dessein pour chacun d'entre nous et que chaque vie est l'occasion de nous rapprocher de nous-mêmes, et plus nous nous rapprochons de nous-mêmes, plus nous servons un dessein qui est plus large que nous, qui pour eux peut être le déploiement de la tribu, mais qui est en fait quasi sacré. Je souris en parlant, hein, parce que ça me met en joie rien que
de savoir qu'on aura des comptes à rendre.
En tout cas, on aura des comptes à rendre. Si, ce qu'il dit, hein, c'est si nous n'avons pas été finalement en cohérence avec ce que nous sommes vraiment.
Oui, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné, de la vie que je t'ai donnée? Je pense que c'est ce que les gens se posent comme question déjà avant le départ. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?
Oui.
C'est souvent au moment du départ qu'ils se rendent compte.
C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui regrettait d'avoir trop... Les regrets que je peux entendre, c'est j'aurais pu aller vivre au bord de la mer, je ne l'ai pas fait.
J'aurais pu vivre pour moi.
J'aurais pu vivre pour moi.
Et pas pour les autres.
Et pas pour mon compte en banque.
Oui, ou pour les autres.
Pour les autres, bien sûr. Et ça, c'est aussi pour ça que je conseille de faire de la place à du vide, à des moments vides dans nos journées, à du vide sur les étagères, parce que la nouveauté ne peut surgir que parce qu'on lui fait de la place. Et c'est très difficile de créer du vide dans nos journées pleines.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour que cette année 2022 soit une année... Ce sera quel signe?
Qu'en 2022, donc l'an prochain, on va rentrer dans l'année du tigre. Et le tigre, en apparence, il est costaud. Mais le tigre, ce qu'il faut retenir, c'est une énorme force de rebond. Capacité à bondir et capacité d'aller loin et d'aller vite. C'est pas une année agressive, c'est une année qui donne la force, c'est l'agressivité de la bonne idée. Dans le sens, c'est un anglicisme ce que je dis, l'agressivité. Vous savez, c'est une bonne idée, elle fait long feu, elle va loin. Donc c'est cette énergie-là qui arrive l'an prochain.
Et cette année, c'était quoi?
C'est le bœuf. Donc le bœuf est travailleur. Enfin, c'est
une énergie
travailleur, solide, l'ancrage. On peut dire que dans une année comme celle-ci, les pas sérieux s'abstenir. Le made in China, encore une fois, le copier-coller, c'est plus la bonne année. Donc il va y avoir un retour pour aussi, je pense, je vois votre bague, enfin, ce qui est magnifique. Hein, on va retrouver de l'intérêt pour la pierre, mais aussi la pièce unique. Et ça, c'est
l'artisanat.
Les choses qui ne sont pas les pommes qui ne se ressemblent pas toutes.
Oui, on va retrouver du goût.
Qu'on n'ait plus les pommes qui soient cirées. Du bon goût. Oui. Ça implique qu'on soit debout pour ça. Pour finir, pour faire ce clin d'œil-là.
Debout, c'est le titre du livre publié chez Mama Édition de Marie-Pierre Dillenseger, Dillenseger. On vous retrouve.
Vous tapez Marie-Pierre sur Internet,
vous trouvez mon site.
Il y a des liens. Enfin, mon site Internet, c'est powerspaces.com. C'est powerspaces.com. C'est de mettre du pouvoir dans vos espaces.
Voilà. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Une phrase pour terminer.
Vivez.
Oui, parce qu'on...
Vivez.
C'est quand même inspiré, ce livre.
Oui, oui, oui. Et le crédit n'est pas qu'à moi. Hein. Je pense que les guides ont vraiment été là.
Ils y sont toujours.
Ils y sont toujours. Et les vôtres aussi. Et ceux de nos auditeurs aussi.
Sachons les tenir à distance. En quoi sont...